Louer et remercier soit le Seigneur pour la grâce et le privilège que nous avons d'être ici avec un très profond désir dans notre cœur d'écouter Dieu nous parler, de recevoir sa parole et de l'expérimenter nouvellement. Et la relation à lui, la chercher et la trouver. Et avoir communion avec lui et les uns avec les autres. En moi, ou bien alors, cette année, je ne sais pas si pendant les premiers week-ends, je pourrais être ici. Les invitations font qu'arriver de partout et je ne sais pas combien de fois et où est-ce que je serai. Mais il y a une chose que j'ai beaucoup dans le cœur, très dans le cœur, c'est que la parole, que Dieu très bientôt fasse quelque chose de très exceptionnel, puisse faire quelque chose de très exceptionnel. De mon dernier voyage, ici entre quelques petit groupe et aussi à Zurich, j'ai déjà fait le compte rendu et nous constatons toujours plus que nous vivons dans les derniers jours. Et frère Schmitt a lu la parole que nous devons comprendre ce que le Seigneur a dit. Écoutez, moi tous, j'aurais presque eu ce penchant à être libre et à ajouter une seule parole à cette phrase sans sortir la parole, sans blesser la parole, faire du mal à la parole. Écoutez-moi bien tous et cherchez à comprendre ce que je vous ai dit. Que le Seigneur puisse à moi, à nous tous, nous accorder la grâce de bien prêter l'oreille et d'écouter, de bien exactement écouter ce qu'il dit et ensuite de ne pas l'interpréter, mais de le comprendre, de comprendre ce qu'il a dit. Si quelqu'un interprète, alors ça veut dire qu'il n'a même pas compris. Et si quelqu'un a compris, il n'a plus besoin d'interpréter. Alors la chose est claire pour lui. Alors nous avons la parole du Seigneur, nous avons compris la parole du Seigneur. Et c'est de ça qu'il s'agit maintenant, c'est ce qui compte dans ces jours. De bien exactement écouter, avec attention, dans tout le sérieux, dans toute la sincérité et l'honnêteté, sans opinion préconçue. Et ça aussi, c'est très très important. Si des hommes écoutent l'un l'autre parler, mais qu'ils ont déjà une chose, une opinion conçue dans leur tête. Alors, ils n'écoutent même pas exactement ce qui est dit quand quelqu'un parle. Encore moins comprendre ce que la personne a dit. Ils écoutent ce qu'ils veulent écouter, entendre ce qu'ils veulent entendre, comprendre ce qu'ils veulent comprendre. Et cela n'a pas le droit de nous arriver dans le spirituel. Que Dieu nous garde. Mais cela arrive toujours de nouveau. Et c'est peut-être raison que nous nous tenons devant cette grande question. Combien seront qui jusqu'à la fin persévéreront et demeureront dans la parole de la vérité et qui ne se laisseront pas troubler, mais qui dans la patience attendront. Comme Jacques écrit, jusqu'à que la pluie de l'avant et de l'arrière saison soit tombée. Jusqu'à que Dieu ait achevé ce qu'il a promis. Ait pu achever ce qu'il a promis. Ce n'est pas un mystère que sur terre il y a encore plus de confusion et d'égarement que nous le pensons. Que nous aurons préféré voire le contraire, mais comme le frère Branham le dit dans un endroit, cela arrive pour que ce qui est vrai soit mis à la lumière. Les gens peuvent s'arrêter à ce qui n'est pas bien et ne même pas pouvoir se réjouir sur ce qui est beaucoup mieux que bien. Donc, sur ce qui est très bien. Donc, ne même pas vouloir se réjouir sur ce qui est très bien. Nous savons que tout ce que Dieu avait créé n'était pas seulement bien, c'était très bien. Dieu a tout observé, a tout regardé, tout ce qu'il a dit, ce qu'il a créé, ce qu'il a fait, ce qu'il avait fait, et c'est écrit que c'était très bien, à ses yeux. C'était très bien. Et la même chose, aujourd'hui aussi, on pourra le dire. Tout ce que Dieu dit, tout ce qu'il fait, tout ce qu'il produit, tout ce qu'il fait sortir, crée, si déjà c'était très bien dans la création corruptible, que devrait alors être en nous la création incorruptible, divine, qui demeure éternellement? Cela doit être une chose parfaite, car de Dieu ne peut que sortir la perfection. Et si, selon la parole de l'Écriture, nous étions en Dieu avant même que le monde ait commencé à exister et que nous avons été nés de Dieu, nés de nouveau, alors cela est une chose parfaite. Une naissance de Dieu. Et nous avons aussi souligné cela, qu'elle doit avoir lieu par la parole originale et l'Esprit de Dieu. Pas seulement comme une philosophie intègre qui est considérée comme ayant sa place dans les choses spirituelles, mais comme une expérience authentique, vraie, avec notre Dieu. Peut-être que je mentionne seulement cela, parce qu'il y a 14 jours d'ici, pendant mon séjour aux États-Unis, vraiment, j'ai vécu la plus grande déception de ma vie, en grande partie. J'ai entendu des choses que j'avais sûrement déjà un peu entendues ici et là, mais après que j'ai rencontré les personnes qui croient ces choses personnellement, les choses ont été différentes pour moi. Mais une nouvelle reconnaissance est montée de mon cœur, et bon de mon cœur, de savoir qu'il y a un troupeau. Il y aura une troupe qui ne se laisse pas séduire, tromper, égarer, mentir, mais des hommes qui attendent que la parole de Dieu s'accomplira, littéralement s'accomplira tel que c'est écrit. Aussi, aujourd'hui, ce soir, nous n'allons pas remplir le temps avec les choses négatives. Notre temps sera trop précieux pour ça. Amen, frère Gaïdet, je suis entièrement de ton opinion. Mais elles sont quand même nécessaires à être mentionnées pour vous montrer quelle grâce nous avons reçue d'être en Dieu et d'avoir été conservé en Dieu et par cela dans la parole de Dieu et de ne pas sortir du témoignage, d'aller au-delà du témoignage des Écritures, encore moins d'être en train d'interpréter ce qu'il a promis. Comme un peu, si je peux le dire en quelques mots, il y a beaucoup d'enseignements qui existent parmi ceux où on était des choses qui pour un citoyen normal ou bien alors pour un citoyen du royaume de Dieu, car c'est ainsi que c'est écrit, nous ne sommes plus des étrangers et des gens du dehors, mais nous sommes citoyens de Dieu, gens de sa maison. Et Paul écrit, notre cité, notre droit de domicile est au ciel. Et ça, nous le croyons de tout notre cœur, mais il y a justement des gens qui réellement croient que le Seigneur serait déjà revenu. Matthieu 25, c'est arrivé, est accompli. L'époux est ici, sur terre, parmi son épouse. Et il y en a qui croient que la résurrection a déjà eu lieu, est arrivée, qui croient que l'enlèvement a déjà eu lieu, etc., etc. Si je n'avais pas moi-même entendu ça de mes propres oreilles par ceux qui annoncent ces choses, j'aurais dû me remuer la tête et demander à la personne qui me les aurait racontées, est-ce que vous avez vraiment bien écouté? Vous êtes sûr de ce que vous avez... Mais moi-même, pendant des heures, j'ai bien écouté ce que cette personne me racontait, ou bien alors me disait. Je vous dis que depuis lors, les choses sont différentes pour moi. Et ensuite, de mettre tout ce qui croit là dans les chaussures de celui que Dieu, de manière la plus puissante depuis le jour des apôtres, a utilisé. Cela, alors, fait plus mal. Mais comme je le disais tout à l'heure, nous pouvons être reconnaissants. Nous n'avons pas honte du choix de Dieu. Nous sommes reconnaissants pour tous les serviteurs, pour tous les apôtres de Dieu et pour tous les prophètes. Mais il y a une chose qui reste éternellement vraie, vraie, que tous les vrais hommes de Dieu ont tous parlé le vrai langage de Dieu et que tous ont enseigné la même chose et dit la même chose et que il peut pas avoir de contradiction entre ce que Dieu a dit il y a 2000 ans ou bien il y a 400 ans ou bien alors 200 ans ou bien alors 20 ans. Il ne peut pas avoir de différence. Car quand Dieu parle, alors ce sera toujours la même chose. Il ne va jamais grandir dans sa connaissance. Il ne va jamais pouvoir dire, oh là, j'ai oublié quelque chose dans ce que j'ai dit. Non, il ne peut rien avoir oublié. Il est la source et le puits de toute sagesse et de toute perfection. Et pour cette raison, nous en sommes très, très reconnaissants. Ce qui est grave, c'est que, justement, des hommes, quand ils se détournent de la parole de Dieu, ils abandonnent la parole de Dieu, ils perdent aussi leur sens. Ça va ensemble. Et j'ai un peu percé, comme on dit. Parfois, je peux être désagréable. Bon, quand cela est nécessaire, je peux être désagréable et poser des questions désagréables, impertinentes. Et ça, je l'ai fait aussi dans ce contexte avec cette personne. Je lui ai demandé, mais est-ce que le Seigneur est déjà venu avec tous ses anges et que tous les peuples se sont déjà rassemblés devant lui et se lamentent et pleurent? Il dit oui, il est déjà venu avec tous les saints et tous les peuples sont rassemblés devant lui. Et il m'a demandé, mais est-ce que tu ne les vois pas tous se lamenter sur terre? J'ai dit non, jusqu'à maintenant non. Mais je fais que mentionner cela parce que c'était en partie des frères qui étaient ici dans cet endroit et qui ont voyagé partout avec nous, qui étaient avec nous et qui subitement, comme déjà dit, viennent et disent qu'ils ont reçu la révélation des sept tonnerres. Et tout cela appartient à la révélation des sept tonnerres, tout cela. Alors on souhaiterait qu'un éclair frapperait et mettrait fin à toute cette folie. Mais il y a une chose qui reste valable. Dieu est lié à sa propre parole. Et tout aura lieu et s'accomplira tel qu'il est écrit. Le Seigneur reviendra et prendra les siens auprès de lui. Mais là aussi, l'Écriture doit s'accomplir. Hein? Quand ils diront, Christ est ici et Christ est là, ne le croyez pas. Car comme l'éclair part de l'Orient et brille jusqu'à l'Occident, il en sera de même au retour du Fils de l'homme, au retour du Seigneur. La chose la plus grave encore, c'était alors que J'avais aussi une citation de Frère Branham entre les mains d'une prédication de novembre 65. Et que je pouvais lui montrer que Frère Branham, encore en 65, en 1965, a attendu le retour du Seigneur. Et ces hommes-là prétendent que le Seigneur sera revenu déjà en 1963. Et vous savez ce qu'il dit? Cet homme-là, soi-disant sage, là, me dit, mais même à Frère Branham, cela n'avait pas été révélé à l'époque quand le Seigneur est revenu en 1963. J'ai dit, bon, alors cela ne m'a pas été révélé aussi à moi. Comme déjà dit, nous ne voulons pas présenter sur ces choses, pas du tout. C'est une douleur profonde dans notre cœur que ces choses existent et qu'elles sont propagées et que des hommes sont emportés dans ces choses parce que, et ça je le dis très consciemment, parce qu'ils ont abandonné l'amour pour la vérité. Ils ont abandonné. On doit avoir abandonné une chose pour pouvoir recevoir l'autre. Si j'ai deux mains pleines, personne ne pourra me mettre quelque chose dans les mains. D'abord, je dois redonner, ou bien alors pour ne pas dire jeter ce que j'ai, pour ensuite pouvoir avoir les mains libres, pour pouvoir prendre ce qui est absolument, recevoir ce qui est absolument sans valeur et sans nécessité. Mais remercions le Seigneur de ce que il nous a conservé dans sa grâce. En fait, les gens disent aussi la même chose. Ils disent que le temps de la grâce aussi est passé depuis 1963. Alors j'ai pu remercier de ce qu'il n'est pas encore passé, le temps de la grâce. J'ai pu remercier le Seigneur. Où serions-nous si le temps de la grâce était déjà passé? Non, il passera seulement quand le dernier sera appelé à entrer, car le royaume sera qui est déterminé à entrer dans le royaume de Dieu, selon la parole de l'Écriture, Romains 11, verset 25, quand la totalité des nations sera entrée, alors après cela, Israël sera ensuite dans son entièreté sauvé. Je voudrais lire plusieurs écritures de ces écritures, plusieurs versets, et ensuite aussi d'une prédication de Frère Branham, lire plusieurs déclarations. Je ne le fais pas souvent, ça a lieu très rarement en fait. Du psaume, de la parole de Dieu, je voudrais d'abord lire le psaume 119. Psaume 119, verset 160. Une parole très connue. Psaume 119, verset 160. Psaume 119, verset 160. Toute la substance du contenu de ta parole est vérité. Et toute ordonnance de ta justice est éternelle. Du psaume 138, psaume 138, les premiers versets. Je te remercierai de tout mon cœur. Je te chanterai des louanges devant les dieux. Devant ton temple saint, je me prosternerai. Pour adorer, je louerai ton nom pour ta miséricorde et ta fidélité. Car au-dessus de tout ton nom, tu as magnifié et élevé ta parole. Jusqu'ici, ces deux écritures. Nous ne pouvons pas assez répété que le ciel et la terre passeront, mais que la parole de Dieu demeure éternellement. Nous ne pouvons pas assez répéter que la parole de Dieu est la semence originale. Tout ce que Dieu a déjà fait et fera encore, toutes choses seront faites selon et en conformité à sa parole. Et tout ce que ne serait-ce qu'un seul de ses serviteurs fait, sera aussi en conformité à sa parole et selon sa parole, devra être selon sa parole. Si c'est un serviteur de Dieu, de Noé, dans un verset, il est écrit qu'il fit tout selon la parole du Seigneur. De Noé, il est écrit. De Moïse, la même chose, il est écrit qu'il fit tout comme le Seigneur lui avait montré. D'Élie, c'est la même chose alors qu'il était sur la montagne de, il était allé sur la montagne de Carmel. Il est écrit pour que vous puissiez savoir que j'ai fait tout cela selon la parole du Seigneur. Les hommes de Dieu doivent être liés avec Dieu par le Saint-Esprit et doivent puiser de la même source de laquelle tous les prophètes et tous les apôtres ont puisé. Et c'est cette raison qu'il faut qu'il y ait un accord à 100% dans ce qui a été déjà annoncé et sera encore annoncé, prêché de la parole de Dieu. Alors que le frère Branham vivait encore et avait été ravi dans le paradis, il lui avait été dit qu'il sera jugé d'après ce qu'il a prêché. Cela l'a étonné. Tous, nous croyons, n'est-ce pas, que nous ne serons pas jugés. C'est peut-être que parfois nous nous permettons des choses que nous ne nous permettrions pas si nous pensions que nous aussi nous aurions à rendre compte devant Dieu. Mais là, il est dit subitement que tu seras jugé en présence de ceux à qui tu as prêché. Cela l'a étonné, il lui a dit, mais, et il a demandé, mais est-ce que Paul aussi sera jugé? La réponse a été oui. Alors il a dit, j'ai prêché exactement ce que Paul a prêché. J'ai baptisé comme il a baptisé. Si lui, il subsiste, moi aussi, je subsisterai. Et alors, cette grande foule qui était tous habillés en blanc a dit, c'est en cela que nous nous reposons. Peut-être que j'ai, pour la raison suivante, dit cela parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont prêchées, qui originellement n'ont pas été prêchées par les apôtres et les prophètes. Les gens n'ont pas compris et ils sont passés à côté de la parole de Dieu, de ce qui a été enseigné, sans comprendre que chaque homme doit s'égarer qui ne se tient pas à la parole de Dieu dans tout ce qu'il fait et dit. Quelqu'un qui pense être assez intelligent et qui pense que son savoir lui sera à sa disposition, un tel homme, par son savoir, s'égarera, sera égaré, son savoir l'égarera. Que Dieu soit remercié de ce que les psalmistes, les prophètes et les hommes de Dieu, dans l'Ancien et le Nouveau Testament, ont estimé la parole qu'ils ont reçue. Pourquoi est-ce que les hommes de Dieu, n'est-ce pas, ont tenu la parole de Dieu si haute pour eux? Ils l'ont estimée au-dessus de toute chose. C'était ceux-là qui avaient reçu par révélation, par inspiration divine, la parole de Dieu. Et Dieu a appelé ceux à qui la parole de Dieu avait été adressée. Il les a désignés des dieux parce qu'ils avaient reçu cette substance divine en eux. La parole de Dieu, je pense, pouvoir dire que si nous avons reçu vraiment par la même révélation et inspiration de l'Esprit de Dieu, la parole, telle que c'était avec les prophètes et avec les apôtres, telle que c'était le cas avec eux, alors nous aussi, nous allons estimer au-dessus de toute chose la parole révélée, reçue, au-dessus de tout, et nous la placerons au-dessus de tout. Alors nous allons comprendre ce que le psalmiste ici a exprimé avec cette parole. Tu as magnifié et élevé ta parole au-dessus de ton nom. C'est réellement, il y a 14 jours de suite, cela m'est arrivé, que le frère se moquait de moi quand il me voyait ouvrir la Bible et que j'étais en train de vouloir lui lire des versets. Avec cette remarque, il a dit, mais tous, dans toutes les dénominations, ont lu de ce livre durant cette année. Et toi, tu fais la même chose que les dénominations. Ma question a été, bien sûr, mais qu'est-ce que je dois faire alors? Si ce n'est pas de la Bible que je lis, et d'où est-ce que j'ai à lire? Tous connaissent ma réponse. On ne veut même pas la publier. Parce que sinon, nous savons qu'il y en a qui ont même mal compris cela. Mais nous croyons que chaque prédication qui a été tenue par Frère Branham, chaque prédication, d'abord, est venue des Écritures et nous a de nouveau ramenés, reconduits dans les Écritures. Celui qui ne voit pas ça comme ça, ne voit pas ça correctement, justement. Celui qui ne comprend pas cela comme ça, ne comprend pas ça aussi correctement. Eh bien, car le témoignage de cette Écriture, au témoignage de cette Écriture, rien ne peut être ajouté et retranché. Actes des Apôtres, chapitre 17. Une parole aussi très connue de nous tous. On pourrait sûrement lire beaucoup d'écritures dans ce contexte qui s'ajuste à ce thème. Actes des Apôtres, chapitre 17, verset 11. Ceux-là avaient des sentiments plus nobles que les Juifs de Thessalonique. Actes 17, verset 11. Ils recevaient la parole avec empressement et joie et examinaient profondément les Écritures de jour en jour pour savoir si ce qu'on leur disait était conforme, était juste, était vrai. De recevoir la parole avec joie et ensuite avec la même joie et le même empressement examiner profondément les Saintes Écritures. Et se convaincre de l'absolu dans la, et de placer son ancre dans la parole elle-même pour ne pas être ballotté par tout vent de doctrine. Ils étaient plus nobles. Ils avaient des sentiments plus nobles. Ils ont reçu la parole avec empressement et joie. Ils n'ont pas frappé les mains. Ils n'ont pas fait d'enthousiasme. Mais ils examinaient profondément les Écritures de jour en jour pour savoir si ce qu'on leur disait était conforme avec ce qui était écrit. Était conforme. Si aujourd'hui, les gens faisaient la même chose, tous les croyants faisaient la même chose, on aurait épargné beaucoup de problèmes. Mais pour que les Écritures s'accomplissent, ces symptômes-là doivent apparaître qui vont jusqu'au cœur de l'Église parce que cela a été prédit à l'avance. Que des gens sortiront de l'Église du milieu du peuple de Dieu avec des pensées folles et des hérésies qui apparaîtront contre la vérité comme jamais des hommes l'ont fait du temps de Moïse. Peut-être encore cette remarque. Alors que je lui disais qu'il est écrit que quand le Seigneur reviendra, il y aura deux qui seront dans le même lit, l'un sera pris, l'autre sera laissé. Deux dans le même champ, deux à la même mule. Et je lui ai demandé où est-ce qu'un seul cas serait arrivé qu'un ait été pris et l'autre serait laissé, aurait été laissé. Et alors, il a dit, mais ça, c'est une révélation particulière. Alors, j'ai bien sûr dit, je peux renoncer à cela, à cette révélation particulière. Si plus rien d'autre ne tient, alors, c'est, n'est-ce pas, la parole révélée, la révélation. C'est ce qu'ils utilisent sur la parole révélation. Et aujourd'hui, je voudrais un peu parler de cette parole, révélation. Révélation. Qu'est-ce que c'est qu'une révélation? Qu'est-ce que c'est que la révélation de Dieu? Qui connaît cette prédication? Christ, le mystère de Dieu révélé. Qui connaît cette écriture? Dieu est révélé dans la chair, manifesté dans la chair, justifié en esprit et prêché parmi les nations reçues dans la gloire, etc. 1 Timothée chapitre 3, verset 16. Qu'est-ce que c'est que la révélation divine? La révélation divine est l'accomplissement, la réalisation d'une promesse que Dieu a donnée. Ce ne sont pas des hérésies, des folies, mais l'accomplissement, la réalisation des promesses que Dieu a données. Christ en était la révélation. Il était la révélation du mystère de Dieu dans la chair révélée. Manifesté, car signifie que c'était écrit une vierge enfantera, fera, naîtra, enfantera un fils qu'elle appellera Emmanuel. La révélation, oui. Mais révélation comme réalité divine que quelqu'un peut tenir dans ses bras et peut voir sous ses yeux. Siméon avait dans ses bras la révélation de Dieu. Il a pris entre ses bras et il a dit, Seigneur, maintenant, tu laisses aller ton serviteur en paix. Car mes yeux ont vu le salut de Dieu. Toutes de nouveau des pensées me viennent de cet entretien. Je ne veux pas les exprimer, je préfère les retenir. Mais je disais à cet homme, Enoch était le septième après Adam. Et il est écrit que le bon plaisir de Dieu se reposait sur lui, était sur lui. Il avait le bon plaisir de Dieu. Et il ne fut plus trouvé sur terre. Et je dis, mais vous, vous êtes tous ici. Et vous dites que vous êtes enlevés. Où? Vous êtes enlevés où? Enoch n'était plus, ne fut plus trouvé sur terre. Et vous, vous êtes encore tous ici. J'aurais préféré dire disparaissez. Mais je reste toujours poli, même quand les gens sont complètement à côté de la page, parce que je sais très exactement que ce ne sont pas eux, ce ne sont pas les hommes, mais ce sont des esprits séducteurs religieux qui ont pris possession de ces hommes. Et pour ne pas pour dire, oui, qu'ils les retiennent possédés. Et alors, ça devient pour eux sept fois plus grave. Aussi, une parole très connue dans Timothée. 2 Timothée, chapitre 2, verset 16 jusqu'au verset 18. 2 Timothée, chapitre 2, verset 16 jusqu'au verset 18. Peut-être le verset 15 avec. 2 Timothée 2, verset 15. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a pas besoin d'être confondu parce qu'il présente avec justesse la parole de la vérité. Nous continuons avec le verset 17. Et leurs propos et enseignements continueront à ronger comme un cancer autour d'eux. Parmi eux sont Hyménéus et Philétus, qui se sont égarés par rapport à la vérité parce qu'ils disent que la résurrection a déjà eu lieu. Ils privent ainsi certains de leur foi. Ici, ça me rappelle cette parole dans l'Ecclésias. Ce qui a déjà existé revient, sera de nouveau là. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Déjà autrefois, il y avait eu des hommes qui avaient prétendu que la résurrection a déjà eu lieu, est déjà arrivée. Aujourd'hui, nous avons la même condition, les mêmes esprits. Et cela aussi s'accomplit. Les gens meurent et quittent la terre, mais les esprits qui les habitaient ne sont pas ensevelis avec eux. Ils quittent ces hommes lors de leur mort et trouvent d'autres personnes qui peuvent encore utiliser. Et quand ils meurent, ils les quittent et ils vont encore posséder d'autres. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons la promesse de recevoir l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu est l'Esprit de la vérité. L'Esprit de la vérité conduit dans toute la vérité, et toute la vérité est toute la parole de Dieu. Tout le reste ne mène pas au but. Romains, chapitre 9, Romains, chapitre 9, verset 21. Et à cela, nous allons nous rapprocher toujours plus de notre sujet. Romains chapitre 9, verset 21. Le potier n'a-t-il pas pouvoir sur l'argile pour faire de la même masse ici un vase pour un usage honorable et là un autre pour un usage commun. Ensuite, le verset 23. Pour montrer en même temps les richesses de sa gloire dans des vases de miséricorde qu'il a préparés d'avance pour la participation de sa gloire. Il y a différents vases avec différents contenus. Dieu veut faire de nous des vases qu'il peut remplir, des vases qui doivent déborder, car nous sommes pas encore satisfaits avec ce que nous avons reçu jusqu'à maintenant. Et j'ai une bonne nouvelle pour vous. Dieu a encore plus. Dieu a encore beaucoup plus que nous avons reçu jusqu'à maintenant. Et Dieu donnera plus. Nous voulons aujourd'hui croire Dieu et lui faire confiance. Et ne pas hésiter, écouter et encore plus hésiter avec notre décision envers lui, mais simplement dans notre cœur. Prendre dans la foi la décision et dire: Seigneur, je veux entièrement être ta possession, t'appartenir et me tenir entièrement à ta disposition, entièrement. Si, comme toute l'Église, si nous le faisons comme Église entière, sincèrement, pas avec un cœur à moitié, mais avec la pleine conviction et que nous disons: Seigneur, ta venue est proche. Ton retour est proche. Tu veux te manifester. Tu as encore des hommes que tu peux utiliser pour cet objectif. Nous sommes encore ici sur cette terre. Nous avons écouté ta parole. Et nous nous tenons à ta disposition. Nous voici. Fais de nous, fais avec nous comme cela te plaît. Mais sans frein. Sans poser des questions. Vous savez comment les hommes sont? Nous, parfois, on se trompe nous-mêmes. On dit entièrement pour Jésus, on chante des cantiques avec ce contenu, mais dans la réalité, ce n'est pas dans notre vie telle que nous le chantons. Mais Dieu va accorder sa grâce. Croyons-nous, croyons cela de notre cœur. Je lis maintenant brièvement la prière à l'introduction de la prédication avec le titre « Christ est le mystère de Dieu révélé » prêché le 28 juillet 1963 par l'homme de Dieu, frère Branham, William Branham. Seigneur Jésus, ici c'est écrit dans la prière, voilà ce qu'il... Maintenant c'est la prière. Seigneur Jésus, j'ai parlé à ce corps de l'Église pour qu'il tienne ensemble par la main immuable de Dieu, pour qu'ils se tiennent ensemble par la main immuable de Dieu, par la parole absolue. Je les ai prévenus comme Paul a prévenu son troupeau des loups qui allait entrer. Tu es le même Dieu que tu étais autrefois, mais l'ennemi est aussi le même. Que cette communauté et ce lien de l'amour demeure toujours entre ces personnes dans le Christ Jésus. Vous savez ce qui touche un cœur de berger. Vous pouvez le lire dans le prophète Jérémie. Vous pouvez le lire dans le prophète Ézéchiel. Dieu parla, je leur donnerai des bergers selon mon cœur. Moi-même, je serai le berger de mon troupeau. Et je m'occuperai moi-même de mes brebis. Et en même temps, Dieu parle, prenant le jugement et dit, les bergers se sont paix eux-mêmes, etc. Mais le troupeau, ils les ont éparpillés. Ensuite, Dieu dit, j'ai établi des sentinelles sur mon peuple et ils ne doivent pas se taire, mais quand ils voient le danger venir, ils doivent avertir. S'ils ne le font pas, le sang de ceux qui mourront sera demandé d'eux. Nous avertissons, pas parce que cela nous plaît ou bien nous amuse, nous avertissons comme les autres hommes de Dieu, comme Paul et les autres, parce que la séduction est grande et l'ennemi prend et utilise toujours les Saintes Écritures pour séduire. Je vous pose la question. Qu'est-ce que l'ennemi a utilisé lors de la tentation de notre Seigneur? Il a dit, il est écrit. Il est écrit. Il prit la parole. Il s'est servi de la parole, comme déjà dans le jardin d'Éden, mais il a tordu dans son sens. Il a mal utilisé, sorti de son contexte. Sa tactique n'a pas encore changé jusqu'à aujourd'hui. Encore aujourd'hui. Mais nous aussi, nous devons faire ce que notre Seigneur a fait. Et il disait, il est aussi écrit. Si quelqu'un veut nous dire quelque chose, nous devons aller aux Écritures et sonder les Écritures et voir où est-ce que la confirmation se trouve de ce qui a été dit, de ce qui a été prêché ou bien annoncé. Et chaque chose doit se reposer sur au moins deux ou trois témoins. Du prophète Jérémie, le chapitre 23, je lis le verset 22. Jérémie, chapitre 23, verset 22. S'ils s'étaient vraiment tenus dans le cercle de mon conseil, ils annonceraient mes paroles à mon peuple. Et donc, chacun qui vraiment, lui-même, a reçu le conseil de Dieu, il ne pourra pas faire autre chose que d'annoncer au peuple de Dieu les paroles de Dieu. Frère Branham dit ici dans la prédication, plus loin, et que comme tu m'as montré la vision il y a environ 2 ans, comme tu me l'as montré dans la vision, que la nourriture sera stockée, emmagasinée. Alors, il entre dans les détails de ce qui lui a été montré. Et ensuite, il dit que j'ai vu dans la vision, c'est ce que j'ai vu qui était stocké ici. Les légumes, etc. Que nous puissions aujourd'hui, que nous en recevions aujourd'hui un panier entier pour le stocker sur la bande, sur les bandes, sur la magasinée, sur la bande. J'appelle Dieu comme mon témoin, alors que Frère Branham, le 3 décembre 1962, me disait, concernant l'emmagasinement, le stockage de la nourriture, il a dit, la nourriture est dans les bandes magnétiques, et par cela, il voulait dire les prédications qui ont été enregistrées et conservées pour que plus tard, elles soient traduites et que au peuple de Dieu, elles soient accessibles, donc mises à la disposition du peuple de Dieu. C'est bandes magnétiques. Et ça, c'était notre devoir, notre tâche. Dans notre génération, de stocker la parole de Dieu pour ce temps dans lequel est contenue toutes les promesses de Dieu, du dessein du salut, les apporter au peuple de Dieu et informer le peuple de Dieu. Un ministère prophétique était nécessaire pour cela, pour que la parole prophétique soit placée soit mise en lumière. Mais cela devait être fait avec grand soin et encore plus important, avec un appel divin pour que cette parole révélée soit ordonnée, soit classée dans l'ordre biblique selon la volonté de Dieu, respectant tout le témoignage des Saintes Écritures, en conformité avec tout le témoignage des Saintes Écritures, et ainsi, selon les Saintes Écritures, l'apporter au peuple de Dieu pour que tout le témoignage soit vrai. J'ai pensé à 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 18. J'ai dû penser à 1 Corinthiens 1. Nous parlions aujourd'hui avec plusieurs frères de cela. 1 Corinthiens 1, verset 18. Là, il est écrit concernant la parole et la croix. La parole de la croix. Et vous savez que justement cette parole, dans nos jours, est rejeté. Je ne veux pas ici redonner le blasphème que j'ai entendu avec mes propres oreilles. Mais aujourd'hui, ou bien, je crois que c'était peut-être même hier, il y a un frère qui a prononcé la chose juste. Ici, il est écrit la parole de la croix. Et la parole de la croix est devenue pour les hommes une énigme. Il a dit parole, croix, énigme. Et cela, ça juste dans notre temps, dans la condition de notre temps. La révélation s'est perdue pour les hommes et ils n'ont plus la compréhension de ce qui s'est passé à Golgotha. C'est devenu, n'est-ce pas, une parole de la croix comme une énigme. Mais pour nous, c'est classé dans l'ordre biblique, c'est joint ensemble dans une harmonie divine. Seulement, nous aussi, nous devons nous trouver et nous laisser insérer dans cette harmonie divine. Et je crois que, en grande partie, Dieu a réussi cela avec nous, par sa grâce. Peut-être que nous ne sommes pas encore entièrement là où Dieu veut nous avoir, mais nous ne sommes pas non plus allés trop loin. Et nous ne sommes pas non plus sortis au dehors des limites des Écritures ou bien des témoignages des Écritures. Peut-être que nous sommes un peu en train de traîner en arrière, mais cela est possible. Mais Dieu nous accordera, nous restituera les années perdues. Tout ce qui a été congé, il le restaurera. Il nous accordera une nouvelle force, un nouveau courage, une nouvelle espérance. Ici, Frère Branham dit ensuite, Dieu avait un but et un mystère caché. C'est de cela que je veux parler à l'Assemblée ce matin. Sur le mystère caché de Dieu qu'il avait dans ses pensées avant même que le monde ne commence, pris son cours. Et comment il s'est déployé jusqu'à l'heure actuelle où nous vivons. Cela est en accord total avec Éphésiens chapitre 1, avec Colossiens chapitre 1, avec beaucoup d'écritures que Dieu, avant même la fondation du monde, avait un plan avec l'humanité qu'il a conçue. Et que, au milieu de l'histoire du salut, de l'histoire de l'humanité, Dieu réalise et accomplit l'histoire divine du salut. Et à la fin, il n'y a pas seulement des enfants d'hommes sur terre, mais il y a aussi des enfants de Dieu. Donc, au milieu, donc parmi la race humaine, il y a la race divine. Et c'est peut-être raison que les Écritures aussi disent dans les Actes des Apôtres que nous sommes la race de Dieu. Pierre l'a mentionné la même chose, dans son épître aussi. 1 Pierre 2, mais qui le voit? Qui l'entend? Qui le comprend? Seulement celui qui a trouvé vraiment, qui a reçu vraiment la grâce de Dieu, qui est né dans le, qui est né dans le royaume de Dieu. Alors là, c'est ça qui manque à beaucoup, parce que ils sont venus au message de beaucoup de dénominations, comme ça, ils se sont heurtés au message, comme ça, sans avoir vraiment fait une expérience personnelle avec Dieu. Ils sont sortis de la dénomination par enthousiasme à cause des grands miracles dans le ministère de Frère Branham. Et pendant un temps, ils étaient, n'est-ce pas, enthousiasmés. Et ils ont parlé, n'est-ce pas, de ce que Dieu, comme il le formule, a fait par un prophète. Mais les plus grandes œuvres que Dieu fait, que ce soit par Moïse, ou bien par Élie, ou bien par Paul, ou bien par Pierre, ou bien par nous ici aujourd'hui, ne peuvent pas remplacer l'œuvre de Dieu dans l'individu. Il faut qu'en nous-mêmes, dans notre cœur, personnellement, dans notre âme, l'œuvre de Dieu commence. Et c'est peut-être raison que Dieu, le Seigneur autrefois a dit dans l'évangile de Jean, chapitre 3, si ce n'est que quelqu'un naisse de nouveau, sinon il ne peut pas voir le royaume de Dieu. Il ne peut pas entrer ni voir. Il ne se retrouve pas dans le royaume de Dieu. Il doit être de la même substance et du même matériel que est le royaume de Dieu pour pouvoir. Et le royaume de Dieu ne vient pas en frappant les regards avec des accompagnements extérieurs, avec des choses que nous pourrions comme ça représenter ou bien nous attribuer. Là, le royaume de Dieu se crée un chemin avec violence et pénètre en nous. Et ensuite, Christ en nous, si Christ est en nous et que le royaume de Dieu est en nous et a été créé en nous, alors nous sommes dans le royaume de Dieu. Et le royaume de Dieu est en nous, pas avant. Alors, nous sommes en Christ et Christ est en nous. Les deux sont rendus comme témoignages par les Saintes Écritures. Dans 2 Corinthiens 5, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Et aussi, la parole aux Colossiens, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Les deux doivent de manière harmonieuse être en accord. Nous dans la parole et la parole en nous. Ce n'est pas, avec Dieu, ce n'est pas un chemin à une rue à voie unique, mais c'est une relation, communion profonde que le Seigneur a rétablie à Golgotha. Ici donc, il est parlé du mystère de Dieu qui était caché et qui a été conçu par Dieu devant, avant même la fondation du monde et dans le déroulement du temps qui trouve son accomplissement ici sur terre. Ici, il est dit encore. Alors vous comprendrez clairement, je pense, ce qui se passe. Le grand secret de Dieu est caché. Je pense que c'est ce qui se passe. Le grand secret de Dieu est caché. Il a gardé le secret. Personne n'en savait rien. Même les anges ne le comprenaient pas. Il ne l'a pas révélé. C'est la raison. C'est pourquoi sous le septième secret, lorsque le septième sceau a été ouvert, il y eut un silence. Nous savons que Frère Branham a parlé des sept sceaux et que cela est à lire dans la Sainte Écriture, dans Apocalypse chapitre 8, verset 1. Nous connaissons tout cela par cœur. Quand le septième sceau fut ouvert, il y eut un silence au ciel d'une demi-heure. La Bible parle au passé, en fait, de tout ce qui concerne l'histoire du salut. Quand nous lisons attentivement les Saintes Écritures, alors Jean avait vu déjà les 144 000 scellés sur la montagne de Sion. Il voyait la troupe au ciel déjà chanter. Et tous disaient à haute voix que le festin de noces est venu. Laissons-nous être heureux, joyeux et lui donner l'honneur. Jean avait vu déjà les nouveaux cieux, la nouvelle terre avec Dieu. Le temps a peu de valeur. Il est d'éternité en éternité. Si dans Matthieu 25, il est écrit que l'époux vint et que les portes furent fermées ensuite, alors cela était et cela est dans le futur. Mais alors il y a des frères, justement de tels frères, qui prennent cette forme au passé et disent, vous voyez, il a dit, c'est accompli déjà. Et la porte fut fermée. Donc cela a déjà dû avoir lieu. Si c'est écrit que la porte fut fermée, donc c'est au passé.
Hein?
On est assis là et on se demande comment cela peut être possible d'être comme ça, de penser comme ça. Notre Dieu prend soin pour que son mystère conçu depuis l'éternité, qui est multiple, trouvera son accomplissement, son achèvement quand le Seigneur reviendra pour prendre les siens auprès de lui. Et alors, nous le verrons tel qu'il est. Et alors, nous serons semblables à lui. C'est ainsi que c'est écrit. Et c'est ainsi que nous le croyons, car cela deviendra une réalité divine. Et c'est pourquoi il y a eu un silence dans le ciel pendant une demi-heure. Maintenant arrive. Sept tonnerres ont fait entendre leur voix. Et il a été interdit à Jean de l'écrire. Il s'agissait de la venue du Seigneur. Je suis heureux de ce que aussi les tonnerres sont ici mentionnés en relation avec, apportés en relation avec la venue du Seigneur. Parce que c'est là, c'est à cette venue qu'ils ont leur place et nulle part ailleurs. C'est-à-dire, ils ont leur place liée à la venue du Seigneur quand il revient pour mettre un pied sur la terre et mettre un pied sur la terre et la mer, un autre pied sur la mer. Et en tant que le propriétaire de celui qui a tout racheté et à qui tout appartient, et ensuite il annonce qu'il entrera dans son règne. C'est à ce moment-là. Et cela n'a pas lieu lors de l'enlèvement. Lors de l'enlèvement, il ne met pas un pied sur la terre et sur la mer. Lors de l'enlèvement, nous serons enlevés de cette terre après que nos corps auront été changés. Nous irons à la rencontre du Seigneur dans les airs. C'est ce que les Saintes Écritures nous disent. Il y a tout un nombre de venues du Seigneur. Et peut-être que nous devrions rapidement les toucher pendant ce week-end. Vous serez étonnés de voir que même encore dans Apocalypse 22, là où déjà depuis longtemps, au chapitre 19, il est parlé du festin des noces et qu'entre-temps, il est parlé de beaucoup et pour ne pas dire, il est parlé de tout et écrit surtout. Et dans Apocalypse 22, encore, il est écrit de manière si merveilleuse, voici, je viens bientôt. Celui qui a lu tous les autres chapitres avant le chapitre 22, il devrait dire, mais tout s'est déjà accompli. Le Seigneur est revenu depuis longtemps. Et c'est au chapitre 22 qu'il dit, voici, je viens bientôt. Ce dont nous avons besoin, c'est vraiment de la révélation du Saint-Esprit. La révélation de Jésus-Christ, j'ose même dire cela ici, elle nous a été par la grâce de Dieu accordée. Nous sommes assis au pied de Jésus à l'école du royaume de Dieu, là où j'ai écrit au chapitre 23 de Matthieu. Nous sommes assis pas au pied d'un Gamaliel, mais au pied de Jésus. Nous nous sommes assis et nous avons, n'est-ce pas, reçu la parole qui a été révélée par Saint-Esprit. Nous l'avons reçue révélée par le même Saint-Esprit dans tous les détails de la volonté de Dieu. Et si nous ne le disions pas comme ça, nous ne donnerions pas la gloire et l'honneur à Dieu. Nous donnons à notre Seigneur toute la gloire qui lui qui a pris soin que dans ce temps de confusion et de désordre, une parole vraie et claire, sans falsification, une parole sainte de Dieu peut être annoncée et prêchée dans chaque enseignement biblique. Dieu a pris soin pour ça. Et cette parole n'est pas sortie de nous, ne vient pas de nous. Elle est déjà écrite dans les Saintes Écritures, dans la Bible, et elle a seulement été révélée maintenant pour que nous puissions savoir ce que Dieu a comme intention afin de donner tout l'éclaircissement, à savoir quel est l'objectif lié à la réalisation du mystère qui a été caché depuis le commencement des temps en Dieu, le Créateur de toutes choses, mais maintenant révélé à ses saints apôtres et prophètes. Éphésiens 3, 9 et 3, 5. Je me réjouis de cela, je me réjouis de tout mon cœur, de ce que le Seigneur, de manière claire et ouverte, a parlé avec nous. Le frère Schmitt nous a lu. Avez-vous compris tout cela? Ou bien alors, prêtez bien l'oreille, écoutez bien. Faites attention à la manière avec laquelle vous écoutez. Nous pourrions encore lire le verset. D'un autre verset, il est écrit, oui, Matthieu 13. Avez-vous bien compris tout cela? Oui, nous avons compris le Seigneur. Nous sommes conduits plus profondément, c'est vrai. Nous sommes conduits plus en avant, c'est vrai. Mais dans la même direction. Et la direction est aussi juste. Ne croyez pas que nous ne nous examinons pas tous les jours, nouvellement. Et nous ne nous examinons pas seulement à notre propre mesure ou bien par rapport aux autres. Nous examinons en raison de la parole de Dieu. Qu'est-ce que notre Seigneur a dit? Dès maintenant, le monde ne me verra plus, mais vous me verrez. Je me révélerai à vous. Pas à un autre, mais celui qui est ressuscité, celui qui pendant 40 jours s'est révélé aux siens après sa résurrection. Il a parlé avec eux concernant les choses du royaume de Dieu. Il est encore aujourd'hui le même, sans fanatisme, avec une joie profonde et intime, de la même manière aussi avec une reconnaissance profonde et intime. Nous pouvons dire, Seigneur, tu nous as parlé. Tu t'es révélé à nous. Tu nous as révélé les choses cachées de ta parole, les mystères et les secrets et du dessein de ton salut. Nous sommes reconnaissants pour cela. À un tel accomplissement, des prophéties bibliques telles que elles sont interprétées par les hommes, on peut renoncer à cela. Nous attendons la chose vraie, la chose réelle, l'accomplissement de ce que Dieu a vraiment révélé et promis. Est-ce que la résurrection du Seigneur était un enseignement? Non, la tombe était vide. La tombe était vide, ce n'était pas un enseignement. Et ceux qui ne pouvaient pas comprendre cela, il leur a été dit, que cherchez-vous le vivant chez les morts? C'était une promesse, et la promesse est devenue une réalité. C'est ainsi que nous pouvons le lire dans le psaume et dans Actes apôtres 2. Je ne permettrai pas que mon bien-aimé voie là, que son âme reste en enfer et que son corps voie la corruption. C'était l'écriture, et l'écriture ne pouvait pas être annulée. La corruption s'installe après 72 heures. C'est ainsi qu'il ne devait pas ressusciter après, mais dans 3 jours.
Et les sages se brisent la tête, et parfois aussi les lunettes intellectuelles, parce qu'ils disent, mais Jonas est sorti seulement après 4 jours, ou bien après 3 jours, il est resté 3 jours entiers. Les gens ne lisent pas exactement la Bible. S'ils avaient exactement lu, ils allaient saisir le sens de quoi il s'agit en fait. Tout est aussi là une révélation, mais la révélation qui aboutit dans la réalité divine, qui ne passe pas à côté de la réalité de la... Comme d'autres ont toujours dit, et le Seigneur lui-même a dit, brisez ce temple et je le reconstruirai en 3 jours. Pas après 3 jours, mais on doit toujours savoir si un verset biblique est redonné par quelqu'un, ou bien alors c'est vraiment sorti de la bouche du Seigneur. Quand quelqu'un parle, ou bien alors, quand on fait référence à un événement, on doit toujours savoir de la bouche de qui c'est sorti. Et qu'est-ce qui s'est passé avec la résurrection de ceux qui ont ressuscité avec Jésus? Qu'est-ce que la Bible nous dit, les Saintes Écritures nous disent? Les sépulcres sont ouverts. Et beaucoup des saints endormis ont ressuscité. Et après sa résurrection, sont sortis de leur tombeau, de leur sépulcre. Et que cela, c'était un enseignement? C'était une révélation puissante, mais une révélation de la puissance de Dieu. Une révélation de la puissance de la résurrection de Dieu. Ils sont ressuscités avec lui. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 14. Aussi vrai que nous croyons que Christ est ressuscité, Dieu par Jésus ramènera avec lui aussi ceux qui se sont endormis. Où sont-ils? Alors que je demande à cet homme, il dit, oui, c'est une révélation. C'est une révélation. Révélation, oui. Mais une révélation qui aboutit dans la réalité divine, dans un fait réel accompli. Jésus-Christ, Dieu révélé dans la chair. Et vous savez, quand l'achèvement viendra, quand la perfection viendra, nous serons manifestés comme des fils et des filles de Dieu. Et ça, c'est le plus grand événement que nous attendons tous et que tous attendent. J'attends cela et je ne l'attends pas en vain. Je sais que ça va arriver. J'ai la parole de Dieu pour cela. Et c'est en elle que ma foi est ancrée. Oh, combien d'écritures on pourrait encore lire qui nous réjouissent. Pourquoi nous réjouissent? Parce que nous avons la grâce de demeurer dans la parole de Dieu et dans nos cœurs, nous repassons cette parole-là comme Marie le faisait. Et nous savons que telle que la semence divine en nous a été placée, plus rien d'autre peut être ajouté à cette semence, car il n'y a aucun mélange possible. Frère Branham disait, de ce dernier réveil, une épouse apparaîtra pure, sans avoir été touchée, sera manifestée. Et c'est ainsi que telle que Marie autrefois, comme vierge, attendait jusqu'à que la semence de la promesse vienne, ou bien la semence promise vienne, en tant que parole de la promesse, et la parole de la promesse a abouti dans la réalité de la promesse, et dans sa réalisation, et Christ naquit. C'est ainsi que ce sera à la fin du temps de la grâce. Toute la création attend à la révélation des fils et des filles de Dieu. Attend la révélation des fils et des filles de Dieu. Et Jean écrit que cela n'a pas encore été manifesté. Est-ce que vous remarquez comment est-ce que de manière harmonieuse, l'Esprit de Dieu a conduit les différents apôtres? Il y en a un qui écrit et il parle de la révélation. Et l'autre écrit que ça n'a pas encore été manifesté. Et ensuite, il écrit par conviction, inspiré par le Saint-Esprit. Mais quand ce sera manifesté, alors nous le serons semblables. Alléluia. Romains 8, verset 19, 1 Jean 3, verset 3. Loué soit notre Dieu. Alors là, personne. Il n'y aura plus de boiteux parmi nous. nous lui serons semblables, transformés, changés. La mortalité aura revêtu l'immortalité et la corruptibilité, l'incorruptibilité, tel qu'il est écrit. En un clin d'œil, lors de la dernière trompette, nous n'allons pas interpréter toutes ces choses, nous allons l'attendre et l'expérimenter, tel que nous avons été privilégiés de recevoir la parole divine de la promesse pour ces jours. Nous voulons maintenant, avec dignité, porter cette parole de la promesse et dans la patience, attendre jusqu'à que l'heure de Dieu sonne et que ces choses en nous et par nous s'accomplissent, arrivent. Je lis encore une citation, une déclaration à la page 9 en allemand. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Mais lorsqu'on joint correctement le tout, c'est l'ensemble du tableau qui apparaît. De la chute jusqu'à la restauration. Toute l'image de la création et tout le plan de Dieu qui est révélé en Jésus-Christ. Et ensuite, frère Branham dit de manière si bien, Amen. Nous disons trop peu, trop rarement Amen. Nous ne disons pas assez Amen. Quand la parole de Dieu est prêchée, alors nous pouvons dire Amen, sans hésiter. Car avec cela, nous disons Amen à Dieu, à sa parole, et nous donnons raison à Dieu. À cela, nous disons que cela soit ainsi. Amen. Que cela soit ainsi tel que Dieu l'a dit. Que cela soit ainsi. Et cela sera aussi ainsi. Mais lorsqu'on joint correctement le tout, c'est l'ensemble du tableau qui apparaît, de la chute jusqu'à la restauration. Et si tout cela est accompli, il n'y aura plus de traces de la chute. Plus de traces du péché. Et quand tout cela sera arrivé, il n'y aura plus de traces de la chute, plus de traces du péché, de maladie, de détresse, de souffrance ou de mort. Car c'est ainsi que c'est écrit dans Apocalypse 21, verset 4. Il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri de lamentation. Il n'y aura plus de douleur, car les premières choses ont disparu. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Si cette vallée de lamentation ici devrait être la salle de joie, alors je ne sais pas ce que nous attendons. Mais je le dis pour présenter. Par la grâce de Dieu, nous savons ce que nous attendons. Nous attendons l'époux de nos âmes qui a promis dans l'évangile de Jean, au chapitre 14, je vais vous préparer une place. Et je reviens ensuite pour vous prendre auprès de moi, pour que vous soyez là où je suis. Il ne sera pas ici où nous sommes. Nous serons là où il est. Mais ces gens-là renversent chaque parole sur la tête. Alors que je le disais encore, mais écoute, il est écrit dans Matthieu 22 que la salle s'est remplie de conviés, d'invités. Il y a eu un homme qui est rentré qui n'avait pas de vêtements de noces. Alors je lui ai demandé, mais si pour toi le mariage maintenant a lieu ici sur cette terre, est-ce que vous avez déjà mis cet homme-là dehors qui n'avait pas de vêtements de noces? Si c'est comme ça, alors c'était qui? C'est qui? Alors il me dit réellement, non mais ça, c'est une révélation spéciale. Alors vous pouvez bien vous imaginer que cela est allé comme ça d'ici et là. Jamais, il ne te donne jamais une réponse concrète. Jusqu'à que vraiment, il a rempli la mesure, elle a débordé et je voulais plus parler avec lui. Mais bien aimé, je me répète bien volontiers dans ces choses. Nous voulons être reconnaissants pour la parole de Dieu qui nous a été révélée dans toute la sobriété et clarté. Nous devons encore devenir plus reconnaissants de ce que Dieu, dans sa grâce, et nous a conservé le bon sens. Pas seulement que la révélation soit importante, Mais dans notre tête et notre cœur, les choses doivent être aussi en ordre. Je le dis clairement. Si dans le cœur c'est en ordre, c'est juste, alors dans un autre endroit, ce sera juste. C'est-à-dire dans nos sens, dans nos pensées. Mais s'il y a le désordre dans notre cœur, alors la bouche parle de l'abondance du cœur. Et si dans le cœur il y a le désordre, alors qu'est-ce qui va sortir de la bouche? Non, non. Résumons. Dieu a un grand plan avec l'humanité. Il veut faire d'enfants d'hommes des enfants de Dieu. Il veut, par la nouvelle naissance, nous accorder la vie éternelle pour que nous puissions être chez lui, auprès de lui, pour toujours, éternellement. Et je vous demande réellement que nous ne puissions pas seulement comme ça toujours l'écouter seulement, mais en tant que semence divine, recevoir cela dans notre cœur et dire: Seigneur, maintenant j'ai assez écouté depuis longtemps. Maintenant, s'il te plaît, viens avec ton esprit sur ta parole que j'ai reçue de mon cœur et que tout en moi devienne nouveau, que toutes les choses anciennes soient vraiment passées, que je puisse vraiment expérimenter ce que tu as promis. Il y a un cantique qui dit, nous sentons ce cœur, n'est-ce pas? Je prie pour avoir une nouvelle expérience avec toi, Seigneur, avec toi. Car c'est seulement par toi que je serai vainqueur. Du côté du Seigneur, nous passerons de victoire en victoire à ses côtés, car il l'a déjà pour nous remporté la victoire sur la guerre. Il est le vainqueur de Golgotha. Il reviendra et tel que les siens savaient et expérimentaient qu'autrefois il était venu et qu'en lui les Écritures s'accomplissaient littéralement comme c'est écrit, c'est ainsi que quand il reviendra, chaque écriture qui se réfère à sa venue s'accompliront. Ce qui était écrit le concernant s'accomplira en lui, et ce qui est écrit nous concernant s'accomplira en nous. Dans tous les cas, Dieu a des vases pour son honneur sur terre, des vases qui restent purs, des vases qui ont reçu sa parole, qui reçoivent sa parole sainte, sa sainte parole, des vases qui ne reçoivent pas, qui ne permettent aucune autre semence en eux et qui ne commettent pas ainsi la fornication spirituelle, mais qui restent vierges et chastes. Qu'est-ce que Paul écrit dans 2 Corinthiens 11? Je crains que vous ayez quitté votre bon sens envers Christ et que tel que le serpent séduit Ève, vous aussi, vous ayez été séduits dans vos pensées. Le bon sens est le sens et les sentiments, les pensées de Jésus-Christ. Et il est toujours la parole et il restera la parole. Nous devons avoir les sentiments qu'il avait, l'esprit qu'il avait, être des vases pour son honneur. Des vases nouveaux, des vases qui ont expérimenté la nouvelle naissance, qui ont reçu, qui portent en eux la vie de Dieu, la vie divine, et qui ont par cette vie la relation avec Dieu et à sa parole. Et tout ce qui n'est pas de Dieu et ne vient pas de sa parole ne peut pas non plus venir de son esprit. L'esprit de Dieu nous révèle Jésus. Il prend la parole et nous la révèle dans sa signification divine. Et avec cela, nous voulons aujourd'hui terminer. Par la nouvelle naissance, nous avons relation avec Dieu et sa parole et son esprit. Amen. Levons-nous pour remercier le Seigneur. Amen. Fin de la cassette originale.